Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moodstep, où nous parlons toutes les semaines avec un invité de toutes les techniques, les outils qui peuvent nous aider à développer notre savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Françoise Novak. Françoise est accoucheuse de voix. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi de travailler sur sa voix nous aide à trouver notre chemin, cette autre voix ? Nous allons la retrouver tout de suite. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. C'est parti. Bonjour Françoise.
Bonjour Johanna.
Bienvenue sur le podcast de Moodstep, où nous allons parler aujourd'hui d'un sujet dont nous n'avons jamais traité et que nous n'avons même pas effleuré jusqu'ici. C'est « Tu es une accoucheuse de voix », donc nous allons parler de la voix. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais ?
Ben moi, j'ai envie de dire que je suis un mouton à cinq pattes et qui a connu beaucoup d'échecs avec sa voix. Ce qui fait que, justement, comme je voulais vraiment m'en sortir avec ma voix, j'ai fait plein de choses très, très différentes et j'ai un parcours professionnel très, très divers. Puisque, alors, j'ai commencé par faire de la musique très, très petite parce que j'étais tellement fascinée que quand je pleurais, mes parents se mettaient au piano et c'était radical, je m'arrêtais, donc c'était un bon filon. Donc j'ai commencé la musique comme ça, en retrouvant d'oreille les mélodies qu'on chantait quand on était petit à l'école. Et donc j'ai fait du piano très très jeune. Néanmoins, je n'ai pas voulu faire une carrière de pianiste, j'ai fait des mathématiques qui m'ont amené à devenir prof de maths. Tout ça parce que dans ma famille, l'idée de devenir professionnelle, musicienne, c'était pas d'actualité. Et puis aussi parce que ma famille était particulière, trouver un équilibre dedans n'était pas facile. Et les mathématiques ont ceci de très intéressant, que quand on pose des hypothèses, eh bien, on a des résultats qui sont toujours les mêmes. C'est pas aujourd'hui oui, demain peut-être, après-demain je ne sais pas. C'est toujours pareil et donc c'est structurant. Et j'avais besoin de ça. Et dans tout ce que j'ai fait, j'avais envie de transmettre de l'autonomie aux gens que je côtoyais et la possibilité de décider pour eux le meilleur pour leur vie. Donc en faisant des mathématiques, j'avais la naïveté de penser que dans l'éducation nationale et dans les écoles en général, finalement on pouvait transmettre ça aux élèves. J'ai été très sévèrement déçue, donc je suis partie et j'ai fait tout un périple qui m'a amenée à la formation dans le domaine culturel, puisque je suis revenue à la musique en devenant responsable du développement de la musique et de la danse dans un département qui était la Meurthe-et-Moselle. Et donc, de fil en aiguille, j'ai fait de la formation dans le secteur culturel et aussi dans le secteur environnemental, puisque de proche en proche, je suis devenue journaliste. On m'a proposé ça au bout de quelques papiers que j'avais écrits. Et voilà, de proche en proche, le journalisme m'a aussi conduit, parallèlement, puisque je cherchais ma voix VOX et ma voix VOIE, à devenir accoucheuse de voix en allant voir toutes sortes de personnes, puisque dans le système classique, et particulièrement auprès des profs de chant des conservatoires, je n'avais pas du tout de répondant par rapport à mes difficultés vocales.
Okay. Donc, qu'est-ce que tu es allé chercher, c'est-à-dire ces difficultés vocales, et tu es allé chercher des méthodes alternatives ou... Alors, que tu es allé à la rencontre de qui tu es allé?
Ah ben d'abord, moi je vais toujours à la rencontre de moi-même.
Mais... oui, mais qui t'a enseigné
Alors, j'ai dit que j'ai été prof de maths à un moment, et j'ai eu des nodules sur les cordes vocales, donc que j'ai découvert parce que j'ai eu des problèmes d'aphonie vocale. Donc là, je suis allée voir un phoniatre, qui est un médecin des organes de la voix, qui m'a envoyé vers le kiné des organes de la voix, qui s'appelle l'orthophoniste, un orthophoniste. Et donc, j'ai soigné mes problèmes de voix, et je voulais chanter, sauf que je n'arrivais pas à chanter. Je n'accédais pas à mes aigus. Et l'orthophoniste que j'ai vu m'a dit « Ah, j'ai une prof de chant de conservatoire fabuleuse, allez la voir !» Donc je suis allée la voir, sauf qu'elle ne connaissait rien à la voix, et que je me suis retrouvée de très peu de séances avec elle, avec des nodules bien plus affreux que les premiers que j'avais connus. Donc les professeurs de conservatoire, en fait, ne sachant pas faire avec moi, me montrait gentiment la porte de sortie et moi j'étais horriblement frustrée. Donc j'ai cherché des gens qui étaient hors du sérail. J'ai fini par trouver d'ailleurs grâce à une collègue du temps où j'étais prof, comme quoi c'était vraiment une très bonne étape dans ma vie, j'ai trouvé quelqu'un qui est belge et qui lui avait eu des problèmes terribles avec sa propre voix. C'est-à-dire qu'il avait commencé une carrière internationale de ténor fantastique et puis un jour, impossible pour lui de chanter sur la scène. Donc évidemment, tout lui a été fermé et il s'est posé des bonnes questions sur qu'est-ce que c'est la voix, comment ça fonctionne et comment trouver des bons exercices. Donc je suis allée le voir et puis j'ai vu ses limites parce qu'il a vite tourné gourou et c'était insupportable.
Mais ce que, je t'interromps deux
oui,
secondes. Ce qui est toujours étonnant à voir, c'est ô combien une difficulté qui pourrait être un stop à sa
ouais,
carrière est devenue l'opportunité d'aller chercher plus loin, de découvrir autre chose.
Oui.
Et ce qui est un peu ta démarche aussi dans ton propre parcours. Et donc, de ce gourou, tu es passé à un autre enseignant.
Voilà, une autre personne qui avait travaillé avec lui, mais qui avait un parcours par ailleurs différent. Et puis, de proche en proche, je travaille aujourd'hui avec une orthophoniste, avec un prof de chant que j'ai découvert cet été, qui est absolument génial, et par qui je trouve d'autres pistes, j'ai une autre compréhension, donc je revisite mon propre travail. Et j'ai aussi travaillé avec une spécialiste de l'anatomie qui a fait tout un parcours sur l'anatomie vocale. Je travaille aussi avec une prof de théâtre dont l'atelier a pour titre la musique des mots. Donc voilà, je m'enrichis d'énormément d'expériences qui m'inspirent. C'est-à-dire que je ne fais pas la même chose, mais les exercices et l'expérience que moi-même j'ai à travers ces ateliers m'inspire d'autres exercices pour les personnes que j'accompagne. Et puis, de plus en plus, j'ai des intuitions. Parce que tout d'un coup, je fais travailler quelqu'un et j'ai une idée de mouvement, de phrase à lui faire dire, de mouvement avec une phrase, etc. Et ça dépote.
J'ai eu la chance de faire une séance avec toi il y a peut-être un an maintenant, quelque chose comme ça, je pense qu'il y a un an. C'est vrai que c'est étonnant, ça peut même être déstabilisant ce que tu es capable de nous faire toucher avec la voix. Il y a un peu nos barrières qui se fissurent, donc on voit des aspects de nous qui dépassent largement ce qu'on pensait venir travailler ou ce que je pensais moi venir toucher avec la voix. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu en quoi ça consiste ?
Alors, déjà, c'est vraiment un travail extrêmement physique, et c'est de là le mot accoucheuse de voix. C'est un travail sur le corps qui permet de révéler quelque chose que l'on a déjà en soi, et qui donc demande d'ouvrir son corps, de se redresser. Mais justement, le corps, il sait plein de choses, il sait faire tout ça, sauf que on aborde la vie dans notre pays et beaucoup en Occident à travers le mental. Et on veut tout piloter par le mental, ce qui fait qu'en général, on dénie notre corps, on l'empêche de faire des choses qui sont naturelles pour lui, et justement parce qu'on donne une priorité absolue à la pensée, à la construction analytique. Et justement, ça, c'est un frein absolument dingue. Le fait qu'on a vécu des émotions font qu'on resserre son corps, on est très souvent replié au niveau des épaules vers l'avant, on est replié au niveau de la courbure de la tête vers le bas, et tout ça est pour mieux protéger des émotions qu'on a vécues il y a très longtemps et qu'on a verrouillées en soi. Le travail que je fais faire consiste à réouvrir le corps par des postures, par une autre façon, des protocoles pour respirer autrement, pour faire des sons autrement, en s'imaginant qu'on retrouve le statut de souverain de soi-même, donc un peu l'archétype du roi ou de la reine chez Jung. Et tout ça fait que on essaye de dire au mental couchez un petit peu, hein, reste un petit peu tranquille et laisse le corps faire ce qu'il sait faire. Mais il y a un gros combat parce que le mental n'a pas envie de lâcher prise. Et c'est là que parfois les gens ont du mal à lâcher tout ça. Mais dès qu'on lâche, le corps nous montre que c'est génial, il arrive tout seul à faire des choses absolument fantastiques qu'on l'a vraiment empêché de faire jusque-là.
Et qui se manifeste aussi par le son de la voix, en fin de compte,
Ah
qui
oui.
est comme un, j'ai envie de dire, un KPI, un indicateur du travail qui a été fait et de ce qui a été relâché. Pour visualiser un peu mieux, pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on va vivre en allant dans un atelier comme celui-ci?
Ben, ça dépend des gens parce que suivant les cas, les gens vont faire une impro, parler, et puis en fonction de ça, je vais inventer un protocole pour que justement ils acceptent que le corps prenne son essence, c'est-à-dire se mette à inspirer au lieu de faire quelque chose du genre que je vais faire là, c'est-à-dire parler, 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 puis j'ai tellement envie de dire ce que j'ai envie de dire que j'oublie de respirer, je vais jusqu'au bout, je commence à être mal, et puis je prends une toute petite respiration comme ça, et puis je continue. Ce qui fait que déjà, toi qui m'écoutais, tu t'es senti mal parce que comme je suis à bout de souffle, c'est dérangeant. Donc tu as plus trop envie de m'écouter. Et puis moi-même, je suis mal et je continue à rester dans mon espèce d'étouffement permanent qui fait que je ne suis pas dans la présence. Et quand je suis pas dans la présence, je suis pas avec les gens avec qui je veux échanger. Donc ils vont partir dans leurs pensées, parce que c'est désagréable d'être avec quelqu'un qui respire pas, par le fait que nous sommes tous des animaux et qu'on est dans une empathie inconsciente qui fait que si je respire pas, ça va t'empêcher aussi toi de respirer. Alors que si j'inspire comme ça, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise pour toi-même respirer et du coup être avec moi. Et je parlais de présence parce que ça veut dire que moi, quand j'inspire, j'inspire, et puis après, je suis dans ce que je vais dire, et donc tu vas être avec moi parce que je suis présente dans ce que je dis, et même dans mon inspire. Et il va y avoir dans ce silence de l'inspire quelque chose qui va nous relier. Et ça donne l'écoute des gens qui sont là justement pour écouter ce que j'ai à dire.
Oui, donc
Et c'est
c'est.
tangible, hein. C'est tangible,
Oui.
on le sent, mais c'est assez fou.
Donc c'est apprendre. J'entends le mot écoute, en fait. C'est vrai que la voix est on pourrait dire, un outil de communication.
Oui.
Et là, quand je t'écoute, j'entends les deux plans. J'entends la communication avec soi-même, c'est-à-dire par l'écoute, puisqu'en fin de compte. Et là, je prends conscience que je fais une phrase sans respiration. C'est très drôle. Donc c'est apprendre à s'écouter via des signes dans le corps ou dans comment est notre voix ou notre souffle. Et c'est la communication avec l'autre, puisqu'en fin de compte, en se posant et en étant en relation avec soi-même, on est en meilleure relation avec les autres. Donc en fin de compte, avec cette technique, tu travailles sur des choses aussi large que le stress ou même le leadership, parce que j'ai l'impression que ça peut jouer dans la
Énorme.
prise de parole et de ce qu'on renvoie à l'autre.
C'est énorme de ce point de vue-là. Et justement, là, j'ai fait un cycle avec une personne qui est directrice générale d'une entreprise d'une soixantaine de personnes. Elle m'a raconté, parce qu'à la fin du cycle de 8 séances, je fais un bilan, c'est-à-dire j'ai préparé un questionnaire qui est le même pour tout le monde. Enfin, je ne vais pas te raconter ça en détail, mais les gens voient justement ce qui a changé. Et puis, il y a un retour aussi sur mon travail, parce que c'est toujours bien d'avoir des critiques constructives pour améliorer ce que l'on fait. Et cette dame m'a expliqué que, avant de commencer le travail avec moi, il lui arrivait de devoir intervenir en public. Et 5 jours avant, à peu près, elle avait un rhume. Et le jour J, elle était aphone. Et depuis qu'elle fait le travail avec moi et qu'elle a quasiment fini ce cycle, elle est demandée par toutes les télévisions pour intervenir sur le sujet sur lequel elle intervient parce que elle a une présence incroyable, puis en plus elle a des choses très intéressantes à dire, posément, tranquillement, on l'entend, alors qu'avant elle faisait partie de ces gens qui avaient une voix toute petite qui s'excusait d'exister finalement. Et c'est énorme. Et les changements sont d'ordre professionnel au niveau du leadership, mais aussi au niveau privé, parce que les rapports changent avec les enfants, avec les partenaires, on prend sa place, on prend plus de place, il n'y a plus besoin d'élever la voix par rapport aux enfants, par exemple, si on a des enfants pas très grands. C'est des retours qu'on me fait, mais c'est colossal. Ça m'émerveille, je dois dire que ça m'émerveille.
En t'écoutant, je me dis donc il y a un travail de fond
Oui.
Tu prends la personne là où elle en est, et puis c'est un cheminement, c'est une aventure pour arriver à une autre voie ou une voie posée, je sais pas comment tu dirais.
Sa propre voie,
Sa
à sa
propre
propre
voie, à
voie.
sa
Parce
propre voie.
que, voilà, parce que ce qui se passe, c'est qu'autour, au fur et à mesure du travail, mais dès la première séance, dans les postures que je propose, les impros et le fait que les gens commencent à respirer, eh bien, il y a des harmoniques, souvent des harmoniques graves qui arrivent dans la voix, qui lui donnent un rendu beaucoup plus moelleux. Si je comparais à du tissu, il y a des tissus, on voit presque la trame et la chaîne, on voit presque à travers. Et puis, on peut enrichir ces tissus en mettant de la laine dedans, du cachemire, de la soie, etc. Et ça donne un tissu qui devient très doux, qui devient très agréable à caresser, à toucher. Ben, la voix, c'est pareil. Au fur et à mesure qu'on s'ouvre corporellement, qu'on se donne l'autorisation de respirer, ce qui devient naturel, on revient au naturel. Ça se fait spontanément, la voix change, elle devient agréable, très plus ronde et puis beaucoup plus forte, c'est-à-dire qu'on retrouve la puissance vocale qu'on avait quand on était bébé. Parce qu'on sait tous qu'on entendait les bébés crier au bout de la rue quand ils ont faim. Ben, on était ces bébés-là, mais au fur et à mesure, ça s'est amoindri. Mais on a toujours ça en réserve et on peut le redéployer. Sachant que l'idée, c'est pas de se mettre à crier après les autres, mais qu'on peut retrouver la puissance vocale. Et c'est ce que font les gens. Du coup, retrouvant cette puissance vocale, ils retrouvent leur puissance tout court, et donc leur confiance en eux. Parce que, voilà, j'ai fait travailler quelqu'un qui dirige une équipe, qui est autodidacte, et qui avait le syndrome de la gorge sèche, c'est-à-dire se sentant toujours dans le besoin de prouver qu'il était bon, il était dans une anxiété permanente et du coup il avait besoin sans arrêt de boire de l'eau. Donc il avait un verre et une carafe et il buvait tout le temps. La première séance qu'il a faite, je lui ai proposé d'abord de faire une impro parlée, puis je l'ai vu se rétrécir au lavage mais à toute vitesse. Donc je me suis dit, ah non, c'est pas la bonne piste. Donc je l'ai allongé. Je lui ai fait contacter son ventre pour détendre son ventre et respirer d'une manière beaucoup plus équilibrée, avec notamment une respiration abdominale. Et il a sorti une voix incroyable de chanteur. Et à la fin de cette séance, il est reparti dans sa vie professionnelle et quotidienne. Et à la deuxième séance, il m'a dit, depuis, je n'ai absolument plus jamais eu besoin de prendre cette carafe d'eau parce que voilà, je suis beaucoup plus tranquille, je n'ai plus cette gorge sèche. Bon, et à la fin des séances, il m'a raconté d'autres choses, je ne vais pas tout te dire, mais c'est saisissant, quoi. C'est saisissant, c'est génial.
En
Je
fait,
dis, ça fait
là où je voulais en
un
venir avec la question que je n'ai pas vraiment posée, c'est il y
Oui.
a d'abord ce travail de fond, et est-ce qu'après il y a un entretien, ou est-ce qu'après il y a. Par exemple, est-ce que les gens repartent, ils ont des petits exercices à faire non, ou c'est
Non.
vraiment tu fais le travail et après tu.
Ben, c'est-à-dire que si je demande aux gens entre deux séances de faire le travail, ils vont repartir dans leurs habitudes
Ah,
sans s'en rendre
je te parle même pas entre deux séances, je te dis, tu fais un travail de fond, je sais pas, tu travailles avec quelqu'un 2 mois ou plus, j'en sais rien, combien de temps dure ce travail? Et ensuite, est-ce qu'il se termine ce travail ou c'est l'exercice de toute une vie?
Alors, ce que je propose, c'est aux gens de venir pour une séance, enfin, quand les gens s'inscrivent à titre perso, hein, pas dans le cadre d'une entreprise avec laquelle je peux passer un contrat, je leur propose de venir faire une séance à la fin de laquelle ils se décident. Est-ce que ça leur a convenu? Est-ce que pas du tout? Ils n'aiment pas ça? Ou il s'est passé tellement de choses que ça leur fait peur, donc ils n'ont pas envie de continuer, parce que ça arrive aussi. Tellement de gens aiment que ça change, mais pas que eux changent, n'ayant pas compris qu'il faut être ce changement que l'on veut voir dans le monde. Ça commence par soi. Et donc, s'ils sont partants pour continuer, je leur propose de faire un cycle de 8 séances sur 1 an. Parce qu'il y a de tels changements corporels qui font que les gens me racontent que sans qu'ils l'aient voulu, au bout de parfois dès la première séance, entre la première et la deuxième, à un moment, ils se sont redressés dans la rue ou dans le métro. C'est pas qu'ils l'ont décidé, c'est que leur corps l'a voulu. Parce que le corps, quand il sent qu'on commence à l'autoriser à faire ce qui est bon pour lui, ben, il le fait spontanément. Et donc, il y a des impulsions qui viennent de lui. Donc, il faut le laisser digérer et faire le travail qui se continue entre deux séances. D'où le fait que je demande aux gens de ne jamais venir à moins de 15 jours d'intervalle. Contrairement à ce qui se passe dans les séances de yoga, etc. Tout ce qu'on fait, très souvent dans le domaine du corps ou du développement personnel, on a tendance à dire aux gens, ben, venez 3 fois par semaine ou au moins une fois par semaine. Ben, moi, je dis, ne venez pas à moins de 15 jours entre deux séances.
Et après
Et
ce travail d'un an de 8 séances, est-ce qu'il y a un entretien ou pas?
alors, après ce travail de 8 séances, soit les gens, ça leur suffit et ils s'arrêtent, soit ils se rendent compte qu'ils ont une voix et ils ont envie de chanter. Et ils se mettent à chanter, parce que je fais faire, je propose des journées voix et chant. Donc là, on se met à faire de la musique. Il y a des gens qui, au bout de 8 séances, sont partis d'une telle fermeture que spontanément ils se disent, ah ben je reprends, ou parce qu'ils ont encore un peu de stress à régler pour eux, ben, on refait un cycle de 4 séances, ou un cycle de 8 séances, ou un cycle de 2 séances. C'est du sur-mesure, si tu veux.
D'accord.
Et moi, personnellement, tu vois, je travaille sur ma voix et il n'y a pas de limite. J'ai envie de continuer et je sais qu'on peut toujours améliorer les choses.
Oui, toi, tu es une chercheuse presque dans ce domaine. Tu utilises toi pour apprendre et retransmettre.
Ben, je suis une chercheuse et je sens que j'ai encore des choses à régler dans ma voix. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que c'est l'échec qui est porteur. Je voudrais faire une parenthèse parce que en écoutant une émission sur France Culture, j'ai découvert l'existence d'un monsieur qui s'appelle Charles Pépin, qui
Ah ben
vient de
je le
sortir.
connais, Charles.
Génial. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Vertus de l'échec, et c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. L'échec, c'est vraiment génial pour rebondir et aller plus loin, trouver des nouvelles choses qui sont les bonnes pour nous, nous faire découvrir, s'améliorer. Je trouve ça fabuleux. Donc aujourd'hui, j'ai encore des choses à régler dans ma voix chantée. C'est ça qui m'a fait découvrir ce prof de chant absolument fabuleux de cet été. Et là, j'ai encore un autre chemin par rapport à la voix et je fais une synthèse. Je suis en train de changer des choses dans mon approche et c'est merveilleux, quoi. Ça continue d'avancer. Mais pour moi, c'est le moteur même de la vie, hein. Quand je n'apprends plus, j'ai l'impression que je suis morte, quoi. C'est le moteur même de la vie pour moi, là, apprendre.
Et est-ce que, donc dans les gens que tu rencontres qui parfois ont peut-être un bagage, des blessures, est-ce que ce travail peut être entre guillemets dangereux dans le sens où il peut ouvrir quelque chose qui est un peu trop gros, quoi?
Alors, si les gens ne sont pas prêts à contacter des émotions très difficiles, de toute façon, ils n'y vont pas, ou bien ils s'arrêtent. Donc, c'est très simple. La première séance, ils se disent, oh là là, c'est pas pour moi. Voilà, maintenant, certes, on retraverse des choses, mais alors, on n'en parle pas du tout, et ce sont généralement des émotions qui sont liées au stade préverbal, donc on n'en parle pas. Et puis de toute façon, l'idée, c'est pas de parler de ce qui nous, tout d'un coup, peut nous faire pleurer dans ce travail. C'est on traverse cette émotion à travers la voix et on passe sur une autre rive. C'est pour ça que je dirais que ce travail, il est éprouvant et c'est un mot que j'adore parce que dans le mot épreuve, il y a le sens, le premier sens qui est ressentir. J'éprouve un sentiment, j'ai une sensation. Il y a le sens de l'épreuve photographique, au sens argentique du terme, c'est-à-dire qu'on plonge un papier qui était tout noir au début dans un révélateur, le terme est bien choisi, et puis il apparaît ensuite toutes les nuances de la photographie, donc de qui l'on est. Et puis il y a le côté épreuve de la vie, c'est-à-dire qu'il faut lâcher un inconfort habituel que l'on apprenait pour un confort, pour aller dans une zone d'inconfort qui va nous permettre après d'être dans un confort habituel, mais d'un vrai confort. Mais c'est éprouvant au sens où on traverse des épreuves dans la vie. Il faut une forme de courage pour faire ce travail, parce qu'il faut le courage d'être parfois dans un chemin qu'on ne connaît pas, d'aller vers l'inconnu et d'être dans une épreuve, parce qu'on est dans un entre-deux. Pour aller dans quelque chose qui nous convient mieux.
Pour finir, je me demandais s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire comme un petit exercice qui peut nous faire prendre conscience de certaines choses sur notre voie ou nous libérer seul. Je ne sais pas si c'est...
Seul.
Ouais.
Bah, seul, on reste dans ses habitudes, on n'est pas conscient de ce qu'on fait seul. Donc c'est. Mais
Donc c'est
les
un
gens.
travail forcément accompagné en fait.
Oui, mais par contre, je suis très frappée du fait que les gens qui viennent me voir sont interpellés par le mot accoucheuse de voix. Il y a des gens qui sentent qu'ils ont quelque chose avec leur voix, à faire avec leur voix, et que ça va les libérer, que ça va les amener à prendre leur place, à trouver leur voie. Parce que c'est ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent me voir, ils changent de métier, ils osent aller vers quelque chose dont ils rêvaient quand ils étaient petits, mais qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire, souvent entourés par des gens qui leur disent, ah ben oui, tu fais un boulot que t'aimes pas, mais tu manges, donc passe ta vie à la mourir, mais au moins tu manges, quoi. C'est manger pour, c'est vivre pour manger. Et ces gens-là, ils arrivent à se dire, ah ben non, j'en ai marre de mourir ma vie, je vais vivre ma vie, je vais sauter les carcans. Et puis, il y a des gens, et ils sont très nombreux, qui me disent, ben, voilà, je prends ma place, j'ose dire des choses que j'ai jamais dites aux gens, et ma vie change. Mais c'est génial. Enfin, moi, c'est au-delà d'un travail, pour moi, c'est une mission de vie, parce que c'est à travers cette activité-là. Les gens deviennent eux-mêmes, donc ils peuvent dire non à des choses auxquelles ils ne pouvaient pas dire non jusqu'à présent, et dire oui à des choses auxquelles ils n'osaient pas dire oui non plus. Et ça change leur rapport à la vie, leur position dans la vie, donc leur rapport avec les autres et de proche en proche, ça fait des changements positifs. C'est-à-dire qu'au lieu de partir en vrille comme ce monde qui devient fou, ils s'ancrent dans la terre et ils vont vers les étoiles. En même temps, donc ils sont ancrés et ils vont vers leur vraie vie, quoi. Donc ça, c'est bon pour tout le monde.
Je te propose de passer au questionnaire.
Oui.
Donc un questionnaire qui est commun à toutes les interviews.
Oui.
Avec la première question qui est, j'aimerais bien, alors une histoire vraiment concrète hein, d'un échec personnel ou professionnel qui t'a beaucoup appris sur toi, sur la vie. T'as vu, il y a trois petits points dans ma phrase.
Oui.
Sur ce que tu veux en fait.
Que j'ai vécu comme un échec professionnel. Alors, mon travail de journaliste, à une époque où j'ai été journaliste, m'a amené à écrire des bouquins sur l'eau, qui ont été très remarqué, dont le premier livre sur le prix de l'eau en France, le prix de l'eau du robinet. Et ça a amené une très grosse entreprise d'eau, enfin le PDG d'une très grosse entreprise d'eau, lors d'une conférence de presse où j'avais des interventions un peu atypiques, à venir me chercher pour me dire, bah, écoutez, venez-vous donc voir la chargée de com et intégrez donc notre équipe. Donc j'ai intégré cette entreprise multinationale et ça ne s'est pas bien passé du tout. Donc, ça s'est même soldé par un procès que j'ai fait à cette entreprise pendant 7 ans. J'ai
Oula, ah oui.
été licenciée une première fois, réintégrée, parce que j'avais raison, et relicenciée une deuxième fois après avoir vécu un harcèlement assez désagréable et vécu une dépression nerveuse enfin, qui était difficile à vivre. Et finalement, donc après, j'ai été au chômage. Et c'est là que je me suis dit, ben, petit à petit, hein, parce qu'au départ c'était vraiment très inconfortable, qu'il fallait que je fasse vraiment ce que j'avais envie de faire et que je développe ce travail de la voix. Et c'est cette impossibilité à la fois de retourner dans une entreprise, parce que ça m'a vraiment pas donné envie d'y retourner, et le fait de faire quelque chose qui m'intéressait et de le développer pour pouvoir vivre aussi, qui m'a m'a amenée à aller dans ce sens qui était vraiment le mien et qui aujourd'hui m'amène à développer ça de manière... les gens viennent me voir maintenant, beaucoup par le bouche à oreille, de la part de gens dont que je ne connais absolument pas. Donc ça, c'est très réjouissant. Puis je vois le fait de voir les effets sur les gens, c'est extrêmement motivant pour continuer. C'est un bonheur, quoi. C'est magnifique.
Alors la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une technique ou un outil, alors on va sortir peut-être de la voix, hein, mais une technique ou un outil qui t'a particulièrement fait avancer? Et c'est pareil, personnellement ou professionnellement.
Alors je suis allée à une journée qu'organise comment s'appelle-t-il? Le monsieur qui a créé les éditions, ben c'est Yves Michel, voilà. Il organise des jeux de développement personnel tous les ans. Et d'autant que lui-même a créé une collection où il développe justement des jeux de développement personnel à travers des auteurs qui créent des livres avec des cartes, etc. Et il y a eu, j'ai participé à une heure pendant laquelle quelqu'un travaillait sur les archétypes jungiens. Et j'ai puisé justement dans ce travail que j'ai fait ce que j'incite à faire aux gens, c'est-à-dire se déployer physiquement comme un roi ou une reine, sachant que ce n'est pas le modèle de quelqu'un qui est acariâtre et qui décide de manière totalitaire sur les autres et qui, voilà, qui veut être obéi d'une manière totalitaire, mais que c'est être dans sa propre souveraineté, c'est dégager quelque chose de généreux et de souverain dans l'ouverture corporelle aussi. Et ça m'a inspiré quelque chose de très très fort, et je vois que ça permet aux gens de sentir ça, de se redéployer. Je trouve ça
c'était
vraiment
juste une animation ou c'est quelque chose qui a été publié chez Yves Michel?
Alors, je pense qu'il a écrit un bouquin chez Michel, le monsieur qui a fait ça. Il est en couple avec quelqu'un, qui sont deux à faire des animations de ce type.
Je ne te rappelle
et
pas
je
de leur
suis
nom.
désolée de ne pas l'avoir là tout de suite en tête.
D'accord. Parce que
C'est je
d'ailleurs,
crois que c'est le jeu du roi ou
moi je
je
les
sais.
connais très bien. Ah bah oui.
Dis-moi
Enfin, je
alors.
les connais très bien. Moi aussi leur nom m'échappe, mais j'ai déjà fait le jeu du roi.
Oui, mais c'est ça. Et
Ah,
c'était
c'est
très impressionnant
étonnant.
de voir comment les gens, justement, ils disaient que se camper dans la position du roi, et c'était
Oui,
extraordinaire.
et tu te mets à droite, à gauche, suivant que tu
Oui,
es un constructeur bâtisseur, un...
exactement.
Oui, j'ai fait ça il y a quelques années.
Oui. Et moi, cette position m'avait beaucoup interpellée, parce que je regardais les gens, comment ils étaient. Alors, il y a les gens qui vivaient cette position comme du dominateur, mais il y en avait d'autres, et heureusement, j'en fais partie, qui, eux, étaient dans l'ouverture, et moi, je m'imaginais avec plein de pétales de roses que je distribuais au monde entier. Enfin, c'était une très belle image, et ça m'a inspiré cette image à donner aux gens. Et parfois, je leur mets une fausse couronne sur la tête, avec un sceptre, qui est un sceptre enfin, qui n'a rien à voir avec un cèpe, mais que c'est un bâton pour aller dans la montagne que on m'avait donné à un congrès de l'Association des maires de France. Ma couronne, c'est un superbe chapeau créé par une styliste qui avait inventé un truc magnifique et que je mets sur la tête comme une couronne. Et voilà, mais ça permet aux gens de transcender quelque chose. Et de retrouver cet état qui est un bel état pour tout le monde. C'est trouver sa propre souveraineté. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a fait un atelier avec moi qui a trouvé ce terme-là, qui est plus juste que de se sentir roi ou reine. C'est retrouver sa souveraineté.
C'est très drôle parce que j'avais une discussion là, je faisais un retour, un débrief sur une de mes interventions et on a parlé de ce mot de souveraineté et que c'est quelque chose que je veux mettre dans le cadre de sécurité, notre souveraineté. Troisième question, quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Eh bien, je dirais être capable de faire fi de la cour dont on est entouré. Et surtout, alors,
on reste dans le thème du roi et de la reine.
Oui, absolument. Et je, dans la multinationale où j'ai travaillé, c'était évident. C'est-à-dire que les conseillers les plus proches font vraiment comme un château fort autour du PDG ou de la PDGR. Je dirais vraiment presque consciemment pour certains, pour que cette personne ne se rende pas compte des erreurs qu'ils font. Et d'aller voir le terrain, d'aller discuter avec les gens à l'échelle sociale la plus basse, je parle bien de l'échelle sociale, hein, parce qu'il y a des informations et des retours que l'on trouve sur le terrain qui vont permettre de réévaluer la façon dont on dirige et de réévaluer tous ces conseillers et la façon dont ils conseillent. Pas souvent de la façon la plus pertinente. Et par exemple, on voit bien ce qui se passe au niveau politique. Les gens au plus haut niveau politique sont complètement séparés, pas du tout en contact avec les gens qu'ils sont censés diriger. Donc ça, mais c'était très très frappant.
Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré ces derniers temps ? Ces derniers temps ou même de toute ta vie, hein. Peut-être qu'il y en a un qui est plus marquant qu'un autre.
Je suis en train de lire le fameux « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Moi, je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Et j'en ai un deuxième que je n'ai pas encore fini, qui s'appelle « Au cœur de la monnaie », qui a été écrit par Bernard Liétard, qui est un Belge. C'est d'ailleurs édité aux éditions Yves Michel, ce deuxième livre. Et le sous-titre, c'est « Système monétaire, inconscient collectif, archétype et tabou ». Dans l'entreprise, on a souvent une problématique qui est trouver de l'argent pour arriver à monter ses projets et trouver de la trésorerie, arriver à rendre l'entreprise pérenne. Et ce livre permet de revisiter ce que c'est que la monnaie et permet, je pense, de voir le rapport qu'on a à soi-même à l'argent et de trouver des solutions parallèles qui peuvent être très intéressantes pour faire fonctionner de manière monétaire sa structure. Donc ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, dans ce livre, on retrouve les archétypes jungiens, parce qu'il en parle énormément. Et ce monsieur est un homme très compétent, puisqu'il a été une personne très haut placée à la Banque centrale de Belgique pour l'avènement de l'euro. Il a beaucoup travaillé sur la naissance de l'euro. Il pensait pouvoir changer les choses à l'intérieur de la Banque centrale de Belgique, et depuis il l'a quitté, et il fait des conférences dans le monde entier, notamment à Berkeley, et il écrit des livres passionnants. Et il a des idées très très intéressantes.
C'est étonnant comme choix de livre par rapport au sujet dont on a traité.
Mais oui,
merci justement, pour ce grand écart.
Justement, tout est lié. Parce que notre inconscient joue énormément dans le monde du travail. Et je reviens là-dessus, le travail de la voix, je le fais faire sur des choses qui sont du fondement, mais ça a des incidences sur le travail absolument considérables et autant sur la vie perso.
Et donc, nous allons finir avec une citation qui t'inspire.
Ah ! Oula ! charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, parce que le fait de vouloir aider les autres en oubliant de nettoyer ses propres toiles d'araignée et se faire du bien d'abord soi-même, je pense que c'est une grave erreur. Ça fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut rentrer en contact avec toi, Françoise ?
Par l'intermédiaire de mon site qui a pour adresse www.francoisenovac.com. Françoise, c'est Françoise sans la cédille sous le C. Novak, c'est mon nom, donc c'est N comme Noémie, O comme Oscar, W comme Wagon, A comme Anatole et K comme Kaolin.
Kaolin, tiens, c'est pas mal.
Oui.
De toute façon, donc, ta citation, les livres et ton site internet seront dans la description de ce podcast qu'on peut retrouver sur SoundCloud, iTunes et le blog Moodstep. Merci beaucoup. J'ai envie de te demander, avant qu'on se quitte, ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir, là. De quoi tu as envie ? J'ai une baguette magique, je vais te l'offrir.
Alors, c'est très clair. Parce que je travaille avec quelqu'un de remarquable sur la stratégie dans mon travail, et c'est quelqu'un de très éclairé, qui
Que
justement
je
nous...
connais bien aussi, c'est Étienne dont
Voilà,
tu
qui est
parles.
exactement Étienne Pluvinage, qui m'a fait, d'ailleurs avec d'autres personnes qui veulent développer leur travail, travailler justement sur cette idée-là, pardon, c'est d'imaginer les choses quand elles seront très, très avancées. Eh bien, je rêve de trouver une grande salle, une très belle salle, où je pourrais faire ce travail de la voix sans gêner les voisins et avec un très très bel espace, et que cet espace soit l'occasion de rencontrer des gens qui ont des idées neuves et positives sur le monde, reliées au corps, justement, qui ne sont pas que des têtes, parce que quand on est séparé de son corps, on n'a pas de bonnes idées, et pas d'idées fertiles en tout cas, et donc que ce soit aussi bien le Dalai Lama, Bernard Liétard, des gens de ce type, qui viendraient parler exprimer leurs idées, faire vivre leurs idées, et de partager ce lieu avec des gens qui font du massage ayurvédique et des choses comme
Uka Ilolo. Non, il faut que tu regardes le travail d'Uka, qui est un
ça.
chorégraphe de hip-hop et qui aujourd'hui est chorégraphe d'entreprise et qui travaille beaucoup avec le corps aussi. Je le vois bien dans ton espace, je l'ai vu.
D'accord. Tu dis Uka Ulolo?
Ilolo,
Ilolo.
Ilolo, je crois.
D'accord. Je vais aller voir ça.
J'ai fait une interview vidéo avec Uka et c'est aussi un amoureux des mots, donc c'est marrant. Il y a quelque chose qui se rejoint. Merci beaucoup Françoise. Et ben je t'envoie tout ça, c'est en chemin, la salle, tout ça, le Dalai Lama, ça y est,
Super.
il vient de prendre son billet d'avion.
Je prépare la chambre.
Je te
Merci
souhaite une
beaucoup.
merveilleuse journée.
Mais très bien, même, Jeanne. À
Au revoir.
bientôt.
Bon, puis tant que j'ai ma baguette dans la main, et puis parce que j'ai beaucoup de crédit, et vous, qu'est-ce que vous souhaitez pour votre avenir? On arrive bientôt aux résolutions, à la nouvelle année. Alors, concentrez-vous. Adjugé vendu, ça arrive, c'est en route, et on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine!